des images de Dieu, d'un Dieu qui culpabilise, d'un Dieu qui est au-dessus d'eux, un Dieu qui surveille, un Dieu qui nous attend pour du bois, etc. Alors, dans toute la tradition biblique, Dieu est toujours du côté de l'homme. Et cela, justement, se réalisera pleinement pour nous, chrétiens, avec Jésus. Jésus, l'envoyé du Père, le Fils du Père, en son incarnation, est au plus près des hommes, avec les hommes, non pas au-dessus ou à côté, ou... non, il est avec. Et là, on peut relire déjà les évangiles et la totalité des évangiles simplement avec cette notion. Jésus au plus près des hommes. Et cela jusqu'au terme. Et cela jusqu'au bout. Et cela jusque dans sa mort et sa résurrection. Tout cela est pour nous. Donc vous voyez que cette parole adressée à Moïse, bien, il faudra du temps pour qu'elle prenne visage. Et pour nous, chrétiens, ce visage est celui de Jésus. Alors, quand cela est fait, bien, Moïse va entrer dans sa mission, accompagné de son frère Aaron. Et là va s'ouvrir un certain nombre de textes, je ne peux pas tous les lire bien sûr, hein, je fais cela de mémoire, une grande saga hein, que vous connaissez bien, hein, qu'on appelle les plaies d'Égypte. Le terme plaie est très injuste parce que il s'agit des signes, hein, en hébreu c'est otot, hein, en pluriel. Voilà les signes, mais c'était ces textes, hein, les dix plaies, hein, je vais reprendre la terminologie connue, hein, les dix plaies d'Égypte sont en fin de compte un vrai combat, non pas mené par les fils d'Israël, qui sont extrêmement passifs, hein, la seule activité hein, qu'ils ont, c'est de murmurer. Donc ils ne sont pas encore au stade de la parole. Ils murmurent, ils récriminent contre Moïse, contre Aaron, etc., etc. Mais en fin de compte, le véritable combat est celui mené par le Seigneur contre Pharaon. Hein, n'oublions pas que Pharaon est divinisé. Hein, c'est une divinité. Hein. Ramsès, c'est fils du dieu Ra. Donc le véritable combat sera entre, voilà, ce combat épique, hein, on est dans un type de littérature hein, qu'il faut accepter, hein, et qui est aussi un temps de catéchèse. Un temps de catéchèse, et c'est pour moi assez extraordinaire, pour les enfants. Et ce récit hein, des plaies, va être repris par le père de famille hein, chaque seder, hein, le repas pascal juif. Et le père devra expliquer pourquoi le Seigneur a fait cela. Et le père devra répondre à la question de l'enfant, hein, dans le contexte donc du seder, pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits? Et là va s'ouvrir, hein, c'est la question qui est posée trois fois dans le contexte du seder, hein, par l'enfant, et le père, le chef de famille, ou le chef du clan, peu importe, hein, se doit de raconter ce combat entre le Seigneur, alors que les fils d'Israël sont hein, dans la peur, bien ce combat du Seigneur contre les forces hostiles représentées hein, dans les textes, par la figure de Pharaon. Vous voyez, on aurait à peu près la même perspective dans l'évangile de Matthieu, dans les évangiles de l'enfance. Hein, n'oubliez pas que dans Matthieu, la communauté de Matthieu est une communauté judéo-chrétienne. Et donc, attendre l'accomplissement des Écritures avec un nouveau Moïse. Alors, dans les évangiles de l'enfance, hein, c'est Hérode qui représente les forces hostiles. Hérode est le nouveau pharaon à la période de la naissance de Jésus. Donc, tout cela pour manifester que cette sortie vers ce chemin de la liberté est onéreux, difficile, où le peuple va rencontrer au fur et à mesure de cette sortie, va rencontrer des forces hostiles. Alors je vous l'avais déjà signalé, je ne sais plus quand, le premier jour ou pas, je ne sais rien. À travers le deuxième récit de création, donc le chapitre 2, et au terme de ce chapitre 2, on nous dit l'homme, Ish, et la femme, Isha, en hébreu, l'homme et la femme étaient l'un devant l'autre, et n'avait pas honte. Et apparaissait dans ce contexte du chapitre 2, hein, de ce deuxième récit de la création, donc cette fameuse relation triangulaire, et qui va se poursuivre tout au long de l'Écriture. Donc, le Seigneur, l'homme, la femme. Voilà la triangulation. Et au cœur de cette relation, il y a la parole. Voilà. Alors au chapitre 4, intervient un quatrième personnage. Donc sous la figure du serpent, du brûlant, le narache. Et ce quatrième personnage s'oppose à cette relation triangulaire. Il ne veut pas. Et donc, ça sera le défi lancé à l'homme et à la femme, à savoir, je vous l'avais déjà dit, et la question qui se pose, et qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est qui croire. Donc l'homme, la femme, vont être confrontés à la parole. La parole de Dieu, d'une part, et la parole du serpent mensonger qui reprend la parole de Dieu. Il dit à l'homme, à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu, ça veut dire que Dieu est le menteur. Et que celui qui a peur, c'est lui, et il a peur de vous. Et c'est pour cela qu'il a mis cette loi, cette limite, c'est pour que vous ne soyez pas comme lui. Alors vous connaissez la suite, chapitre 3 du livre de la Genèse. L'homme, la femme sont devant un choix. Et comme souvent, malheureusement, font le mauvais choix. Bien, la problématique se retrouve ici. Cette sortie, cette route de l'Exode, eh bien, il y a plein d'embûches. Et ça commence d'abord par ce récit des signes, hein, qui sont autant de moments, hein, où il y a cette volonté que le peuple reste en esclavage, reste au service de Pharaon. Donc de ce fameux quatrième, si vous voulez. Et cela pour empêcher ce que Dieu désire le plus, c'est établir son alliance. Après la dixième plaie, alors n'historicisez surtout pas, hein, ces textes avec les grenouilles, les moustiques, les ulcères, etc. Hein, là je pourrais faire, hein, mais je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Hein, je vous donne simplement les enjeux. Hein, donc c'est pour, hein, je le répète, pour montrer ce combat, mais que le Seigneur mène au service de ceux et celles qui seront son peuple un peu plus tard. Donc, après la dixième plaie, c'est-à-dire là où le Seigneur passe, hein, l'ange exterminateur, hein, passe par-dessus la maison, hein, des fils d'Israël, là ça renvoie à des vieilles légendes, et qui, justement, se situe surtout dans des zones désertiques, avec les djinns, hein, les mauvais esprits, et qui donne sens, justement, à l'origine, hein, de la Pâque. Donc, ça nous donne d'arriver au chapitre 12, donc tout à fait toujours en Égypte, où la première Pâque, en fin de compte, va être célébré, non pas sur la terre de la liberté, va être célébré au cœur de la terre de la servitude. Et là encore, avec un peu d'intelligence théologique, spirituelle, ça peut donner à réfléchir, à savoir que le Seigneur intervient là où nous l'attendons pas. Seigneur intervient au cœur des ténèbres. Et la Pâque, la première Pâque, hein, en Égypte, symbolise cela. Et ça, on en a un petit écho avec le chapitre 28 du livre de la Genèse, avec Jacob. Hein, Jacob qui s'enfuit, renvoyé par Rebecca et Isaac vers, hein, le clan des origines, donc vers Laban. Hein. Et Jacob fait cette expérience de cette présence de Dieu, hein, au cœur de son sommeil, hein, dans un songe. Et se réveillant, dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». Voilà. Et cela, dans vos différents chemins, cela vous est peut-être arrivé de dire quelque chose comme ça. Que Dieu soit là, rationnellement, c'est pas possible. Et là, je vous renvoie au premier, dans le premier chapitre de la première aux Corinthiens, où Paul, hein, parle du crucifié. Le ressuscité, c'est le crucifié, donc il y a, hein, toute cette théologie, christologie paulinienne, et qui parle de cela comme un scandale. Comment reconnaître le Dieu de la vie? Comment reconnaître le don le plus précieux que le Seigneur nous fait devant cet homme en croix? On ne peut pas passer à côté de la croix. Et c'est pour ça que Paul en parle comme d'un scandale. Hein, le terme théologique, le scandalone, hein, hein, en grec. Hein. Donc il y a la pierre d'achoppement, la pierre qui me fait trébucher. Alors on peut comprendre à partir de là combien il est important dans la nuit pascale célébrée par la communauté juive de raconter. De raconter, et c'est le père de famille, tu diras à ton fils, et ton fils dira à ton petit-fils, etc., etc. Donc il faut que la parole circule, il faut que la parole éclaire et en même temps actualise. C'est pas simplement raconter une histoire. Si en voir la pertinence, ben, si c'est de l'ordre de la parole, et d'en voir donc la pertinence pour l'aujourd'hui. Alors, l'aujourd'hui, ayom, en hébreu, hein, ce jour-là, etc., hein, est un refrain, est une formule permanente dans le livre du Deutéronome. Aujourd'hui, c'est-à-dire tous les aujourd'hui. Et n'oubliez pas non plus que cet aujourd'hui est très présent dans l'évangile de Luc. Voilà, aujourd'hui, hein, c'est un des dernières paroles adressées au larron, celui que la tradition appelle le bon larron, hein, où Jésus, avant de remettre son esprit dans les mains du Père, dit à cet homme, ce voisin d'agonie, etc., lui, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Enfin, je dis d'autant plus cela que le but de nos célébrations, ce n'est pas être simplement dans le répétitif. Alors bien sûr, non, mais l'essentiel est l'aujourd'hui de notre célébration. Pourquoi faisons-nous cela? C'est la question de l'enfant, c'est au cœur du Seder. Hein, pourquoi? Lama en hébreu. Pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits? Donc tu dois raconter. Et ça me rend très très triste quand nous faisons les veillées pascales et qu'il faut faire vite. Donc on écarte la plupart des lectures, on en garde quelques-unes, le chant de la création. Oui, celui-là, oui. Parce que ça touche au feu pascal. Alors, on ne peut pas en faire l'impasse, mais le reste. Donc c'est comme s'il n'y avait plus de place à la mémoire. Laisser place à la mémoire, c'est laisser place au temps. Voilà, c'est là que, je dirais, la communauté juive nous apprend cela. Et c'est, quand je dis la communauté juive, l'histoire des fils d'Israël, ce sont nos racines. Véritablement nos racines, il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Alors si vous l'êtes, pas tant mieux pour vous. Mais si vous ne l'êtes pas, vos racines, c'est des racines juives. Voilà, saint Paul reviendra là-dessus à partir du chapitre 9, hein, de l'Épître aux Romains. Chapitre 12 de l'Exode, donc ce récit de la Pâque. La Pâque, c'est un vieux rite des semi-nomades, hein, qui a été repris, liturgiquement parlant, par la communauté des fils d'Israël. Un vieux rite bédouin, à une période précise de l'année, de transhumance. Et là, je ne sais pas si c'est la route de l'Exode, mais en tout cas, ça y ressemble. Donc, il faut sacrifier avant le grand départ au printemps, hein, c'est la lune de printemps, hein, sacrifier un agneau, hein, sans tache, asperger les montants de la tente avec le sang. Sera introduit à ce rite un autre rite, mais qui ne fera qu'un, l'épave azim, et qui renvoie plutôt à un rite, un vieux rituel agricole. Là encore, qui a été intégré à la geste de l'Exode. Donc, si vous voulez, pour faire bref, ces vieux rites connus de ce monde semi-nomade, ou vivant aux frontières des terres cultivables, ont été intégrés, donc interprétés, par la communauté, et vont faire un élément essentiel. Pour dire quoi, en fin de compte? Pour dire que la première appréhension du Dieu qui se révèle n'est pas le Dieu de la création, n'est pas le Dieu créateur, c'est tardif dans la théologie biblique, mais pour dire l'expérience d'un Dieu sauveur. La première chose que la communauté va témoigner, Dieu sauve, hein, qui sera d'ailleurs le nom de Jésus, Yeshua, Josué, c'est la même racine. Dieu sauve. La réflexion sur le Dieu créateur, hein, sera beaucoup plus tardif, c'est-à-dire quand ils seront. En possession de la terre, des institutions, etc. Et là, ils auront le temps de réfléchir aussi au Dieu créateur. Donc il y a tout ce rituel de la Pâque, hein, qui est donné au chapitre 12. Et qui est le moment le plus important, dans la mesure où c'est un mémorial, Zikaron, fait chaque année par la communauté des fils d'Israël, comme nous-mêmes, chrétiens, chaque année, nous célébrons la veillée pascale, hein, qui nous introduit, hein, dans la Pâque du Seigneur. Vous voyez bien que quand nous célébrons la Pâque du Seigneur, de Jésus mort, ressuscité en sa résurrection, ben, il y a tous ces textes, ces grands moments de l'histoire du salut qui nous sont proposés. Alors il y a des communautés, hein, des lieux, où cela se fait tout au long de la nuit. Tout au long de la nuit, où chaque texte, chaque moment de la révélation, bien, nous amène au terme, au petit matin, eh bien, à ce moment de la résurrection, le Seigneur ressuscité. Alors, je sais que des communautés le proposent. Alors, quand cela est fait, bien, c'est le temps du départ. Les fils d'Israël partirent. Ils partirent de Ramsès, et puis Ramsès, hein, en direction de Soukhot, au nombre de près de 600 000 hommes de pied, rien que les hommes, sans compter leur famille. Hein, là encore, il faut accepter dans l'écriture, hein,
ces chiffres, qui sont immenses, bien sûr. Et que l'événement en tant que tel, tel que je vous l'ai dit hier, n'a jamais pu se passer de cette manière-là. Ce que l'on sait simplement, c'est ce départ. Il y a bien eu une sortie, et même plusieurs sorties, et qui ont été rassemblées en une seule. Donc, c'est une lecture théologique des événements. Mais l'essentiel, hein, ils partirent. Alar, hein, en hébreu. Hein, ce verbe extrêmement qui traverse toute l'écriture. Et pour arriver, alors là, au point de vue géographique, on n'arrive absolument pas à s'y retrouver. Peu importe. C'est pas fait pour dresser une carte de géographie d'abord. Mais que la direction première que prennent les fils d'Israël, c'est la Via Maris. Donc la sortie par la mer, et cela avant le chapitre 14. Hein. Mais ce qui va devenir la Via Maris, c'est-à-dire la route qui longe la Méditerranée. Et le Seigneur leur fait rebrousser chemin. Alors là aussi, c'est matière à interprétation. Pourquoi ? Non, le Seigneur ne dit pas, je réponds jamais à ce type de pourquoi. Mais on pense que dans ces jaunes géographies, Pitom, Sukkot, c'est le lieu des forteresses, des villes entrepôts pour se prévaloir de des ennemis. Et donc il leur fait rebrousser chemin et il les amène, les fait retourner vers le sud. Et c'est là qu'ils rencontrent un obstacle imprévu qui est la mer. Alors la mer, hein, avec toute sa symbolique biblique et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, hein, la mer c'est le lieu des forces de mort, c'est le lieu des forces du mal, hein, la mer est, voilà, est ce symbole, hein, cet obstacle à la vie. Hein, rappelez-vous des textes comme la tempête apaisée, ou encore Pierre qui marche sur les eaux vers Jésus, etc. Pensez, hein, comme on sera dans la région dans quelques jours, hein, le possédé de Gérasa, hein, les cochons qui vont se jeter dans la mer, hein, parce qu'ils sont légions, hein, donc les démons, hein, etc. La mer a cette valeur symbolique. Donc il se trouve devant cet obstacle, un obstacle civil, un obstacle formel tout à fait, hein, et en même temps symbolique. Alors, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, la fameuse Via Maris, bien qu'elle fût plus proche, car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Dieu les fit donc faire au peuple un détour par la route du désert et de la mer des roseaux. Hein, on parle toujours de la traversée de la mer Rouge, non, absolument pas, c'est Yamchouf, hein, en hébreu, hein, c'est la mer des gens, la mer des réseaux. C'est bien armé que les fils d'Israël montèrent du pays d'Égypte. Moïse emporta les ossements de Joseph, etc., etc. Le Seigneur marchait avec eux. Voilà. Marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc vous voyez, une espèce de va-et-vient, comme si, je dirais, il y avait une hésitation à sortir de cette terre d'esclavage. Hein, en hébreu, c'est Mitzraï, hein, qui est le nom de l'Égypte. Hein. Hein, Mitzraïm, c'est les barreaux de la prison. On peut dire des choses comme ça. Une sorte d'hésitation. À la fois le peuple qui veut aller par le plus court, le Seigneur qui ne tient pas, ils vont avoir la trouille, ils vont vouloir retourner en arrière. Donc il les fait passer par la route du désert et proche de la mer des roseaux. On ne sait pas trop ce que c'est, on appelle ça les lacs amers, on appelle, là c'est les archéologues, ils sont maintenant, on n'essaye plus de localiser. Hein, aucun exégète maintenant ne va se risquer, à part les fondamentalistes, bien sûr. Et surtout les fondamentalistes américains. Mais il n'y a pas que les Américains. Hein. Donc on ne localise plus. Hein. Mais ce qu'on veut montrer, c'est les obstacles, tous les obstacles, sur un chemin de foi. Sur un chemin de foi, chemin qui conduit à la pleine liberté. Et cela malgré que le Seigneur marche jour et nuit aux côtés du peuple. Hein? Comme il marche avec nous. Hein, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, hein, je vous le rappelle. Hein? Hein, c'est le ressuscité qui parle en Galilée à ses apôtres. Et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ben, c'est cela qui est remis en question à chaque fois. À chaque fois que nous sommes dans l'hésitation, à chaque fois que nous avons des choix à faire, etc. Oui, le Seigneur, il est présent, mais pas de manière magique. Alors ce texte du chapitre 14, que nous lisons aussi chaque veillée pascale, on peut dire en langage chrétien, si vous voulez, que c'est véritablement le baptême. Baptême au sens de renaître, ou de naître à nouveau, comme Jésus dit à Nicodème. Donc ce passage, mais visualisé, à travers la mort et de déboucher sur la vie. Alors c'est un texte qui est extraordinaire, assez surprenant. Là encore une fois, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Et le Seigneur qui va un peu bousculer tout le monde. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait là? De laisser Israël quitter notre service. Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux montés par des officiers. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les Israélites, les fils d'Israël, levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Voilà, les fils d'Israël pris dans un étau. Une armée, ses chars, ses officiers, etc. Et de l'autre côté, la mer. Donc une impasse pour eux. Et comment se sortir de cette impasse ? Devant cela, les fils d'Israël eurent grand peur. Et crièrent vers le Seigneur. Voilà, la situation fait que Israël, tout comme au début du livre de l'Exode, se met à crier. Ils ont peur. Sauf que cette fois, à la différence de la fin du chapitre 2 du livre de l'Exode, où on dit simplement le cri des fils d'Israël alla vers Dieu, non, ici, donc c'est le cri absolu, ici c'est différent, ils crièrent vers le Seigneur. Les fils d'Israël eurent grand peur. Quand on faisait la catéchèse étant enfant, je peinais à comprendre cette dimension-là. Je disais, alors que le Seigneur a montré déjà, à travers les signes, les prodiges, à travers déjà le chemin parcouru, pourquoi ils ont peur ? Et ma grand-mère me disait, hochez-les. C'est le cri de la vie. Le cri de la vie devant la mort. Mais cette peur révèle plus fondamentalement un refus du chemin de la liberté. Les fils d'Israël dirent à Moïse, manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies mené mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Voilà la première réaction des fils d'Israël. Vous savez, c'est très mystérieux cela, et combien cela nous concerne. Alors, à différents niveaux, bien sûr, on ne peut pas dramatiser. Rester enfermé dans ses certitudes, la peur de l'ouverture, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. parce que le véritable chemin de liberté va nous conduire vers l'inconnu. Sauf que de cet inconnu, nous connaissons le terme. Et cela vaut pour les fils d'Israël comme pour les chrétiens. Et le terme, c'est la maison du Père. Mais entre-temps, entre deux, ben, voilà, il y a le chemin à parcourir. Notre exode à vivre. Alors la première réaction, c'est de dire, ben, laisse-nous tranquille. Et à aucun moment, on parle de vie, on ne parle que de mort. Hein? La mort a complètement envahi ces gens, ce peuple ici. Et donc la première épreuve, on voit bien, c'est l'épreuve de la foi. Que nous as-tu fait là? Donc vous voyez que ça bascule, donc de basculer devant un Dieu pervers, un Dieu sadique. Réaction de Moïse. Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Voilà, al tiraou. Hein, en hébreu, je me rappelle, étant enfant. Al tiraou. C'est-à-dire, n'aie pas peur quand je faisais des cauchemars. Hein. N'aie pas peur. Crains pas. Voilà un terme qu'on retrouve dans l'évangile. Hein. Ne craignez pas. C'est moi. Hein, après la marche sur les eaux, par exemple. Ne craignez pas, c'est moi. Et c'est pas pour rien que le premier mot du ressuscité, c'est le shalom, la paix. Et bien ici, même chose du côté de Moïse. Ne tenez pas, mais tenez ferme. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, hein, vous voyez la répétition de l'aujourd'hui, hein, aujourd'hui vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. C'est étonnant cette formulation, hein, qu'on va retrouver dans le livre d'Isaïe, hein, dans la bouche d'Isaïe, hein, par rapport au roi Akaz. Hein, qui tremble, parce qu'on est dans le contexte de la guerre syro-éphraïmite, hein, et qui tremble devant les forces qui veulent anéantir, détruire la dynastie davidique. Et Isaïe a ce « Ne craignez pas, tenez ferme, le Seigneur va », etc. On retrouve la même formulation. Oui, tenir ferme, certes, mais ça c'est déjà le premier combat. C'est-à-dire, Israël n'aura pas à combattre individuellement ou ensemble contre des forces, contre l'armée d'Égypte. Non, ce qu'il aura à combattre, c'est sa peur en lui. Et c'est le combat de la foi. Et ce sera le seul combat, hein, toléré par le Seigneur pour l'Israël. Tout comme Isaïe le répétera, hein, au roi Akaz. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux fils d'Israël de repartir. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les fils d'Israël puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. » Voilà, on retrouve l'acte de création. L'acte de séparation. Et le verbe utilisé ici, fend la mer, qu'on retrouve dans le grand combat, hein, qu'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh et autres, combat de Tiamat, beaucoup de formulations reprises des mythes du Proche-Orient ancien. Fendre la mer, la fendre en deux. Mais pour qu'apparaisse le sec, tout comme dans le premier récit de la création. C'est-à-dire la terre ferme. Tant que la mer s'ouvre, les fils d'Israël marchent au milieu de la mer. Suivi par les Égyptiens, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent. Les fils d'Israël pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formant une muraille à droite et à gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et des nuées vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues. Alors c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Il enraya les roues de leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent « Fuyons devant le Seigneur, fuyons devant Israël, car le Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens. » Le Seigneur dit à Moïse: étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent, recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les fils d'Israël, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Voilà, à travers ce récit fondamental dans le contexte de la Pâque, il y a beaucoup de questions qui sont posées au terme de la lecture. Et moi, quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, ma question c'était de dire, et je me rappelle, pourquoi Dieu a fait cela sur les Égyptiens? C'était une question qui me taraudait, enfant. C'est bien, il sauve les fils d'Israël, ça c'est très très bien. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il retourné les eaux de la mort sur la mer, sur les Égyptiens? Et c'est Yerolio. Vous voyez, ça touchait déjà en moi les images de Dieu. Ça nous interroge toujours
quelles sont les images de Dieu que nous portons en nous? Nous les questions. Les questions sur Dieu que nous portons. Et là, le chef de famille me disait, vous n'avez pas entendu? Entendez bien le cri des fils d'Israël, leur peur. Et c'est cela qu'ils doivent traverser. Tandis que les Égyptiens, eux, n'ont pas peur et n'ont pas crié. Les Égyptiens ont préféré la mort, enfin les Égyptiens au sens de l'armée, hein. Ils ont préféré la mort. Voilà des réflexions de type rabbinique, hein, que j'ai portées longtemps, et encore un peu. Voilà, c'est là, à partir de là, on rentre dans ce mystère de l'humanité avec, avec ce Seigneur. Et c'est pas Jésus de Nazareth qui va épuiser le mystère. Non, mais voilà, au fur et à mesure, il nous conduit vers un peu plus de lumière. C'est peut-être ça qu'il ne faut pas louper. Alors, quand cela est fait, eh bien, arrive le chant de victoire, donc le fameux chapitre 15 du livre de Luc-Jean. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier, etc., que nous chantons là aussi. Chaque samedi saint. Voilà, je vais arrêter un petit peu, parce que je respire. Et que je vous laisse aussi un peu regarder un petit peu autour de vous.